I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à découvrir pour une bonne partie d'entre nous la version 3D de Beowulf de Robert Zemeckis, la version qu'il fallait avoir vue, mais qui à l'époque de sa sortie en 2007 était quasi impossible à trouver en France. On va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas.
C'est nos ciné Extra Ball spécial Beowulf 3D et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Rafik, qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est la question que tu m'as demandé de te poser pour lancer ce podcast, je précise. C'est toi qui as choisi d'être balancé comme
Beowulf
ça.
About... Non, en fait, Beowulf, c'est un projet assez atypique à l'époque où il sort. Il nous vient d'assez loin, en fait. Il nous vient de 1997, d'une rencontre impromptue. À l'époque, le producteur, un des pires producteurs hollywoodiens à mes yeux, qui est Jon Peters, producteur du premier Batman, entre autres, et de Wild Wild West, hein, d'excellente mémoire, avait récupéré les droits de la BD de Neil Gaiman, qui était Sandman, et développé donc un film. Il avait sous la main un fan de Sandman, un scénariste très sérieux, qui venait de briller avec un petit film sympathique qui s'appelait Pulp Fiction, et donc qui avait enchaîné avec ce projet Sandman. Et ce gars s'appelait Roger Avary. Il s'appelle toujours, d'ailleurs, comme
oui.
ça, je crois.
Oui, oui.
Et Avary, en fait, a vite vu qu'il était entre de mauvaises mains et que ce qu'on lui demandait comme modification était tellement aberrante par rapport à la bande dessinée qu'il a préféré s'en détacher et dire « je veux pas passer le reste de mes jours à être le mec qui a flingué Sandman ». Donc bye bye. C'est arrivé aux oreilles de Gaiman qui a lu d'ailleurs les mémos qu'elle a envoyés et qui lui aussi ne pouvait rien faire mais était terrorisé. Et juste pour le remercier, il a appelé Avary en lui disant « Merci mec de ne pas détruire mon œuvre ». Et quand ils se sont eus au téléphone, ils ont commencé à parler de choses et d'autres et se sont tous les deux découverts une passion commune pour ce texte, donc qui est le texte de Beowulf, qu'on connaît très mal en France, mais qui est à la source de, on va dire, c'est le plus ancien texte de fiction anglo-saxon. Et donc c'est un objet d'études académiques ultra sérieuses dans le monde anglo-saxon, dans le monde universitaire. Des gens comme Tolkien ont largement passé une partie de leur carrière à faire étudier ce texte à leurs élèves. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France sous la chanson de Roland. Oui. Moi, comme je suis vieux, je fais partie de cette génération qui a dû se taper la chanson de Roland en vieux français, en cinquième ou quatrième, je sais plus. Bon, bah, aux États-Unis, en Angleterre, ils ont Beowulf.
Oui.
L'essentiel des élèves, ça les emmerde. Mais il y en a deux, trois parmi eux qui, au-delà du vieil anglais, comprennent que ça parle de dragons et d'épées et que c'est génial, quoi.
Oui.
Et donc, Avary, en fait, avait bouffé des tas de textes érudits là-dessus. Et en tant que scénariste, il essayait de remplir les trous, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas explicitées dans le mythe originel. Genre, mais pourquoi, quand il va pour tuer la mère de Grendel, il ressort, il a la tête de Grendel dans la main, mais il n'a pas tué la mère, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il se posait des tas de questions. Et en discutant avec Gaiman, en donnant ses solutions de scénariste, Gaiman lui disait « c'est génial, en fait, t'as trouvé ce qui se passe,
voilà,
t'as écrit le film, quoi. On a une structure en trois actes ». Et ils se sont mis à l'écrire. Au départ, l'idée, c'était de faire un film à très petit budget. Alors, le modèle qu'ils avaient, c'était pas le meilleur, pas à mes yeux. Ils voulaient faire, en gros, un nouveau Jabberwocky de Terry Gilliam.
Oula,
quoi, si tu veux.
Ah oui.
C'est-à-dire un film très bavard, voilà. Bon, et fait avec très très peu de sous. Mais même avec un si petit budget que ça, ils n'arrivaient pas à faire décoller le projet, qui était trop atypique. Et le script a quand même circulé de studio en studio. Et des années après, alors que les mecs avaient complètement oublié le truc, boum, coup de téléphone, bonjour, c'est Robert Zemeckis. Donc ils ne comprennent pas, et Zemeckis, entre-temps, était tombé sur ce scénario, et lui voyait l'opportunité parfaite de développer Ce qu'il avait commencé à initier à Hollywood, qui était donc ce truc de la performance capture et de ce qu'elle pouvait permettre. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la performance capture, me demande Thomas. Tu vas me demander ça, Thomas.
Non, parce que moi je sais, mais je vais le demander pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est que la performance capture, tonton Rafik ?
La performance capture, que Zemeckis appelle dorénavant le cinéma virtuel, c'est une méthodologie que Zemeckis a mis en place, parce que ça faisait des années que ce cinéaste, qui était un des plus technologiques à Hollywood, en tout cas un de ceux qui utilisaient le plus régulièrement les effets spéciaux, les nouvelles techniques à des fins narratives. Oui. Là, vous avez vu les bandes annonces juste avant, c'est le réalisateur de Forrest Gump. Et, Forrest Gump est un film où les effets spéciaux participent pleinement de la narration. Et de film en film, il essayait de pousser de plus en plus loin ce qu'on pouvait faire avec les nouvelles technologies pour raconter des choses d'une autre façon, et il bloquait. Et à la fin de, je crois que c'était à la fin des années 90 qu'est sorti Apparence, c'était un film qui montrait vraiment qu'il avait touché le bout, en fait. C'était un film qui était bourré de plans séquences complètement impossibles où vas-y que je te passe par la fenêtre de la et que je descends sous la roue, etc. Oui. Bon, pour un résultat qui était pas forcément très heureux, mais on sentait un mec qui était bloqué par son média, en fait. Et donc il a pris le problème à l'envers. Ça, c'est pas moi qui avance ce que je suis en train de vous dire, c'est mon illustre collègue Julien Dupuis.
Grand
spécialiste de Zemeckis, et aussi, je pense, je soutiens, probablement le premier journaliste en Europe, et peut-être dans le monde, à avoir compris ce que Zemeckis était en train de faire.
Parce
que dès l'époque du Pôle Express, alors que tout le monde se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce machin, on avait vu la bande-annonce, un dessin animé de Zemeckis, pourquoi il fait un dessin animé, Julien avait compris d'emblée, il nous avait expliqué, c'est pas un dessin animé. Il a pensé le problème à l'envers. Il s'est dit, les outils numériques me permettent aujourd'hui un nombre incalculable de choses, mais je suis bloqué par le tournage, en fait, par les conditions du tournage. Donc on va bousculer tout ça. De quoi j'ai besoin pour faire un film ? J'ai besoin d'un comédien. J'ai besoin de sa performance. Mais une fois que j'ai sa performance, je peux faire ce que je veux. Mais il me faut cette performance-là. Et donc, l'idée de la performance capture, c'est ça. C'est qu'on va capturer littéralement la performance du comédien de façon numérique, donc avec des capteurs sur le visage, partout, dans tous les sens. Je l'aurai en volume, en 3D en plus. Et à partir de ça, je vais pouvoir recréer l'environnement. Et une fois que j'aurai recréé l'environnement, je vais pouvoir commencer à filmer. C'est-à-dire que c'est plus on s'organise tous ensemble, clap, son, machin, lumière, tout le monde. Vous êtes prêts, on a au cinéma traditionnel, t'as une seconde pour capturer ton effet. Et si ça rate, enfin, à ce moment-là, on connaît le gag de la cascade foirée qui coûte 500 000 dollars à refaire. Il faut que tout le monde soit vraiment synchronisé sur un moment, comme des musiciens sur scène doivent être absolument synchronisés sur une note. Hors de la musique, elle a depuis longtemps franchi ce pas et on a fait des albums où les musiciens se rencontraient même pas, où chacun vient faire son petit truc. Et, bon, pourquoi pas faire ça avec le cinéma ? Et donc, ce qu'il a mis en place, c'est ça. C'est qu'on commence à tourner uniquement avec les comédiens sur un plateau qui ressemble à une salle de théâtre, en fait. Donc, ils font du théâtre. Le réalisateur est libéré des contraintes. Il n'a pas à s'occuper d'autre chose que de la performance de ses comédiens. Et une fois que tout ça a été enregistré, à ce moment-là, on va commencer à faire le film. Finalement, je trouve qu'ils ne sont pas assez près l'un de l'autre. Alors, on va les rapprocher. Ça serait mieux si je l'avais en... Bon, c'est vrai que quand tu y penses d'un point de vue de réalisateur, c'est tellement évident, sens, quoi. Oui. Tu te dis, mais comment se fait-il que depuis 120 ans, on fait l'inverse, tu vois, on fait tout à l'envers. Donc, il était convaincu d'avoir libéré le cinéma. Le problème auquel il s'est confronté, c'est évidemment la question de l'animation. Pour les gens, c'était l'animation. C'est-à-dire qu'un comédien capturé en trois dimensions, c'était pas vrai. Alors qu'un comédien capturé de manière photochimique en deux dimensions, c'était vrai. Donc vous avez un problème de convention il va falloir quelques années pour rattraper. Bref, pour pouvoir imposer ce système, qui était un système très cher à développer, il lui fallait un studio qui allait mettre beaucoup d'argent. Bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est là qu'a germé l'idée du Pôle Express. Disney, film de Noël, réalisé par Zemeckis. Ok, 200 millions de dollars, tiens, ils n'ont même pas posé de questions, ils ont donné les sous, quoi. Mais une fois que ça s'était fait, une fois qu'il avait son film prototype, maintenant, je vais pouvoir m'amuser avec ce que j'ai créé. Et donc, on en arrive à Beowulf. Déjà, le fait d'adapter ce texte, qui est clairement pas un truc pour les gamins, c'est un texte, comme on l'a dit, c'est un texte d'érudit qui parle de choses, on va dire, de sujets adultes, d'emblée, c'était une façon de dire aux gens, cette fois-ci, c'est pas pour les mômes. C'est pas un dessin animé, sous-entendu. Bon, après, il y avait l'aspect spectaculaire, c'est un film d'heroic fantasy, etc., tout le monde se dit pourquoi il a jamais été adapté littéralement, parce qu'on ne connaît que ses dérivés. Il faut savoir que le 13e guerrier, c'est le plus évident, hein, puisque le 13e guerrier, c'est littéralement l'histoire d'un arabe qui rencontre Bullywif, donc Beowulf. Les deux tours dans Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui se passe dans le Rohan est très inspiré du mythe de Beowulf. Dans toutes les heroic fantasy, donc l'idée, c'était de se dire, faisons l'adaptation officielle. Et entre-temps, Tom Hanks, qui avait tourné donc dans le Pôle Express, et qui jouait, je vais pas dire de bêtises, 5 ou 6 rôles, je sais plus. Tom Hanks avait fait la promotion, personne n'y avait rien demandé, hein, mais c'est lui qui avait envie. Il s'était tellement amusé en fait sur le plateau du Pôle Express qu'il a balancé à tout Hollywood. C'est génial, parce que à l'époque la crainte, c'était c'est en train de nous remplacer, c'est en train de mettre des acteurs numériques à l'écran. Et lui disait non, c'est nous, c'est vraiment nous, mais en plus c'est cool parce que on se fait pas chier comme on se fait chier sur un plateau normal. où il faut refaire 50 fois la même prise parce que le connard derrière sa caméra n'a pas réussi à mettre la lumière comme il faut, etc. Donc, lui, en retournant au théâtre, il avait l'impression de s'être retrouvé en tant que comédien. Et c'est en grande partie grâce à Tom Hanks que Zemeckis a pu avoir un casting 4 étoiles. Parce que il y a quand même Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Robin Wright, John Malkovich, et puis Brendan Gleeson et Ray Winston, qui sont des comédiens sérieux, enfin connus comme des comédiens de prestige aussi, casting oscarisable, quoi. Il y a ce script ingénieux d'Avary Gayman, la performance capture, et enfin le casting 4 étoiles. En gros, Zemeckis se dit c'est gagné.
C'est la timbale.
C'est la timbale. Je vais avoir le film qui va leur prouver que mon truc n'est pas. C'est pas pour faire Shrek 3, quoi, si tu veux.
Qu'est-ce que t'as contre Shrek 3 ?
Mais j'ai contre Shrek 3 qui est sorti.
Non, mais je plaisante.
Qui est sorti la même année que Beowulf, et quand on voit les entrées, on déprime. Ce qui s'est passé aussi avec cette histoire de performance capture, c'est que comme il capturait ses comédiens en 3 dimensions à l'époque du Pôle Express, il y avait eu aussi cette idée, mais du coup, ça, j'ai la possibilité de faire un film en 3D. Donc Zemeckis est à l'origine du retour du cinéma à la 3D numérique. Et donc, il avait expérimenté, bien sûr, déjà sur le Pôle Express, mais découvert qu'il y avait plein d'outils, plein de façons narratives d'utiliser la 3D, auxquelles il n'avait pas forcément réfléchi à l'époque où il faisait des films en 2D. Et donc, sur Beowulf, il va pousser encore un peu plus loin les potards. Alors, on a dans le film, vous le verrez, des effets typiques de lance dans la figure, de choses comme ça, de ce qu'on appelle des jaillissements d'écran. Mais là où ça devient fascinant aussi, c'est comment il a commencé à repenser la mise en scène au sens narratif du terme, grâce à la profondeur de champ et à la superposition des éléments. Moi, j'ai découvert le film en projection de presse, en 2D, parce qu'à l'époque, évidemment, 3D, ils ne savent pas ce que c'est. Et par chance, donc il y avait une seule salle en France qui le passait en IMAX 3D, qui était le Gaumont Disney Village. Donc j'ai pris le train, je suis allé là-bas, j'ai découvert le film est passé en VF, vous allez le voir en VF ce soir. Et j'avais aimé le film, bien, tranquille. Mais bon, il y avait des choses qui étaient un peu, au niveau narratif, vagues, si tu veux. Et je vois le film en 3D et je comprends tout. Mais je comprends tout ce qui se passe, c'est-à-dire pas seulement ce qu'on me montre, mais aussi ce qui se passe entre les protagonistes dans leurs relations, etc. Je me dis, mais pourquoi je comprends mieux le film maintenant que je le vois en 3D ? Parce que Zemeckis a compris que la troisième dimension, c'est un plan supplémentaire, à tous les sens du terme. Et je peux peut-être donner un exemple, c'est toujours le même exemple que je donne, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je trouve qu'il est parlant. Il y a une séquence dans le film où on a un personnage qui vient se plaindre auprès de sa mère, et il est dans une caverne où il y a plein d'objets métalliques qui ont fait en or et tout ça. On ne voit jamais le personnage de la mère, qui est un monstre, mais on le devine sur les reflets de ces objets métalliques. Tout ce qu'on voit, c'est le personnage qui se plaint au milieu du plan. Donc, quand je le vois en 2D, on a ce personnage en dessous, une masse d'objets qui reflètent. Et sur ces objets qui reflètent, le reflet de la mer qui va de droite à gauche, en gros, si tu veux. Et quand je l'ai vu en 3D, en fait, les objets ne sont pas au même niveau dans la profondeur de champ. Donc le reflet de la mer, il se balade, en fait. Et ça fait des champs contre champs. ça fait de l'amorce, en fait. C'est l'équivalent d'une amorce épaule, si tu veux.
Oui.
Et donc, du coup, la dynamique qu'il y a entre le fils et sa mère, parce que le monstre, c'est son fils, la dynamique entre le monstre et sa mère, même si tu ne vois pas la mère à l'image, elle rappelle le langage cinématographique du chant contre chant, c'est-à-dire d'un vrai dialogue au cinéma. On n'est plus dans un soliloque de personnages isolés dans le chant, mais dans un chant contre chant. C'est un des exemples. Là où vraiment... j'ai tilté, en voyant le film en 3D, c'est que y a une séquence, je vais pas la révéler, mais dans laquelle Beowulf est en train d'assister à une espèce de pièce de théâtre, et en plein milieu de la pièce de théâtre, il a une réaction, et je comprenais pas sa réaction dans la version 2D. Et c'est en voyant la version 3D que la réaction m'est semblée évidente, parce que l'objet qui attire son regard, bah, il est tout simplement mis en évidence, oui, par la 3D. Et là, je me dis, ah bah oui, il comprend qu'il doit sacrifier quelque chose. Voilà, je ne vais pas spoiler le film, mais vous verrez cette séquence-là et ce qu'il doit sacrifier, pourquoi il le comprend à cet instant. J'espère que vous le comprendrez. Voilà, tout ça pour dire que vraiment, il avait déjà dépassé l'effet purement spectaculaire du jaillissement de la 3D pour démontrer qu'il y avait une façon de mettre en scène. Et je crois vraiment qu'on ne lui rend pas assez justice pour ça, parce que James Cameron a beaucoup utilisé, bon, déjà la performance capture, évidemment, sur Avatar, même si, reconnaissons à James Cameron ses mérites aussi, il avait commencé à penser à un système similaire dès la fin des années 90, il n'avait simplement pas pu financièrement le mettre en place, parce qu'à l'époque, la Fox qui... surfer sur le succès Titanic, ne voyait pas l'intérêt de financer un autre film de James Cameron aussi cher. Mais il a été évidemment attentif à ce que Zemeckis a fait avec la performance capture. Il l'a amélioré pour Avatar. Et en termes de mise en scène, j'ai retrouvé dans Avatar, en 3D, des effets qui me rappelaient un peu ceux que j'avais découverts grâce à Beowulf.
Mais justement, Beowulf étant sorti avant Avatar, il n'a pas bénéficié, on va dire, de l'équipement qui avait gagné les salles. Ouais. Et du coup, en termes de réception, ça s'est passé comment pour lui ?
C'était dramatique, à plus d'un titre déjà. Donc les salles n'étaient évidemment pas équipées. Et puis surtout, le film est sorti comme un dessin animé. D'ailleurs que malgré toutes les tentatives d'expliquer le processus, les gens restaient bloqués là-dessus. Et quand je dis les gens, c'est d'habitude, c'est les journalistes qui font barrage. Mais là, il n'y avait pas que le journaliste, il y avait même le public. Oui.
Ne pouvant pas le voir dans le bon.
Mais bon, la presse a quand même un rôle à jouer là-dedans qu'elle n'a absolument pas joué. Et pour preuve, à l'époque, hein, c'est plus le cas aujourd'hui, je pense, mais à l'époque, dans tous les articles que je pouvais lire de la presse américaine, on ne citait pas une seule fois les comédiens. Oui. Quand t'as un casting
typique du cinéma d'animation,
le truc de base, en gros, ils ne parlent que des comédiens quand ils parlent d'un film, à peu de choses près. Ils racontent l'histoire et puis ils disent qu'ils aiment bien les comédiens. et puis ils signent le papier. mais là, vraiment, même pas mention. Tu te dis, mais attends, il y a Malkovich, il y a quatre comédiens que je crois du film qui ont eu déjà un Oscar et ils ne sont pas cités. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça. De comprendre qu'effectivement, même si le film est stylisé visuellement, ça ne servait à rien de faire un film photoréaliste, d'autant plus qu'à l'époque, je pense qu'ils n'en avaient pas les moyens. Le parti pris a été de styliser, c'est-à-dire de se retourner vers une espèce de peinture un peu pompière de la fin du 19e siècle, si tu veux, très, très opératique. Enfin, nous, ce qu'on associe encore un peu à l'opéra. Et donc l'exagération des traits dans le film a fait référence à ça. Alors après, je dis pas qu'il y a pas des problèmes. On est encore dans un film prototype, donc oui, d'accord, les yeux sont pas aussi expressifs qu'il le faudrait, etc. Il n'empêche que les mouvements sont des mouvements de comédiens. Les gros plans, vous les verrez. Enfin, voilà, la confrontation entre Anthony Hopkins et Grendel. Grendel est joué par Crispin Glover. Moi, je suis convaincu qu'on reconnaît Crispin Glover. C'est pas ses traits. Il joue un monstre, mais le jeu, c'est vraiment le sien, quoi. Et pour ceux qui ont grandi avec Retour le futur, peuvent pas se dire, mais je connais ce mec, en fait. D'où je le connais. Et la confrontation entre Hopkins et Crispin Glover, elle est puissante, quoi, à l'image. Et quand tu vois les scènes de tournage, c'est bien ce qu'ils ont capturé. Il y avait cette tension entre eux sur le plateau. On n'est pas du tout dans du dessin animé. Et aussi, la 3D rajoute un autre truc, c'est que les visages sont en volume. Là aussi, ça donne un peu plus de présence. Mais non, le carton de cette année, c'était Shrek 3.
Qui ne fait pas l'objet de cette projection ce soir.
Non, si tu veux absolument qu'on fasse un spécial Shrek, marathon.
Ça va aller.
Je sens qu'il y a une demande.
On s'en passera. Oui. On s'en passera. On va plutôt regarder Beowulf, du coup.
Très volontiers.
Dans de bonnes conditions. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Seb, à la technique. Merci au public et au Club de l'Étoile pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite et bon film.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.